VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson, au sommaire de ce 15 décembre 2015.
Violence meurtrière au Burundi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle à une mission d'enquête internationale.
Joseph Kabila accuse l'opposition congolaise d'adopter une posture négativiste et de refuser le dialogue.
De telles menaces, tout simplement, frisent la volonté de M. Kabila de dynastiser la République démocratique du Congo.
Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Au Cameroun, le gouvernement demande aux agriculteurs de retarder les semences en attendant la pluie.
Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre à Moscou son homologue Sergueï Lavrov et le président Vladimir Poutine pour des entretiens sur la Syrie.
Au Yémen, un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur ce mardi avant des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU à Genève.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Un projet de résolution déposé hier au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission au Burundi pour enquêter sur de possibles violations des droits de l'homme dans ce pays en proie à la violence depuis plusieurs mois. Jacques Aristide nous en dit plus.
La résolution sera débattue jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil à Genève, saisie par les États-Unis pour examiner la situation au Burundi. Une initiative qui intervient après une attaque coordonnée vendredi contre 3 camps militaires. Elle a été attribuée à des insurgés et un bilan officiel a fait état de près de 90 morts. Le texte appelle le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, à déployer en urgence et aussi vite que possible une mission pour mener une enquête rapide et complète sur les violations des droits de l'homme. Les signataires demandent que soient fournies au Conseil toutes les ressources nécessaires pour remplir son mandat et notamment que le gouvernement burundais autorise la présence d'experts étrangers. Dans plusieurs quartiers de Bujumbura, les habitants ont accusé les forces de l'ordre d'avoir arrêté tous les jeunes qu'ils rencontraient et de les avoir exécutés sommairement plusieurs heures après les attaques. Ces violences sont les plus graves depuis un coup d'État manqué en mai, déclenché par la candidature controversé du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat qu'il a obtenu à l'élection qui a suivi en juillet.
En Centrafrique, le référendum de dimanche sur la réforme de la Constitution s'est prolongé jusqu'à lundi. Les opérations sont désormais terminées. Le point avec notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso.
48 heures après le scrutin sur le référendum de la Constitution, le pays n'a pas encore clos ce premier épisode électoral. Jusqu'à lundi, il y avait encore des opérations de vote dans au moins 4 centres à Bangui. En province, les villes de Ndélé, Bossangoa, Kagabandoro ou encore Bria ont été en mesure de voter. À noter qu'aucune opération ne s'est tenue à Benzambé, dans le fief de Bozizé, dans le centre du pays. Au Tchad et au Cameroun, les centrafricains de la diaspora ont également pu voter, et ce 24 heures après le jour officiel du scrutin. Malgré les violences et les difficultés techniques, la majorité des votes ont bien eu lieu dimanche. Le soir même, des premiers dépouillements avaient commencé. L'ANE, l'autorité nationale des élections, doit faire de premières estimations sur le taux de participation au vote, sans avoir pour autant précisé de date pour les résultats. Des résultats qui sont attendus dans un délai d'au moins une semaine, un délai court qui devrait servir de repère pour le très attendu scrutin présidentiel du 27 décembre prochain. Environ 2 millions d'électeurs centrafricains seront une nouvelle fois appelés aux urnes. Tatiana Mosso, Bangui, VOA Afrique.
Au Nigeria, la justice a inculpé hier sous de nouveaux chefs d'accusation Sambo Dasuki, ancien conseiller à la sécurité nationale, impliqué dans un détournement de fonds. Des détails avec Eddie Isango.
La commission des crimes économiques et financiers a inculpé le colonel Sambo Dasuki, 60 ans, et 4 autres personnes de détournement de fonds, conspiration et abus de confiance pour plus de 60 millions d'euros. La justice leur reproche d'avoir versé illégalement des fonds à plusieurs patrons de presse pour le financement occulte de la campagne du PDP, parti de l'ancien président Goodluck Jonathan. Détenu depuis le 1er décembre, M. Dasuki est au cœur d'un scandale de corruption sur des contrats d'armement destiné à l'armée pour combattre Boko Haram. Il a été libéré hier, moyennant une caution de 900 000 euros. Les patrons de presse Raymond Dokpesi, ancien ministre, ancien gouverneur et ancien responsable de la compagnie pétrolière publique, est également inculpé dans cette affaire. Les accusés ont tous plaidé non coupables. L'audience doit reprendre aujourd'hui à Abuja.
En Éthiopie, 5 personnes ont été tuées dans des manifestations contre un plan du gouvernement pour développer des terres agricoles en dehors de la capitale. Le ministre de la Communication a déclaré lundi que le nombre de morts pourrait augmenter. Les partisans de l'opposition disent que plus de 30 personnes ont été tuées en 3 semaines de manifestations dans la région d'Oromia, en périphérie de la capitale, Addis Abeba. Les manifestants, qui sont de l'ethnie Oromo, disent que le plan du gouvernement va conduire à une perte d'autonomie et à la marginalisation des personnes vivant en dehors de la capitale.
Le gouvernement éthiopien soutient que le plan de développement des terres agricoles créera de nouvelles entreprises et profitera à tous les groupes de la société. L'opposition affirme que les manifestants sont principalement des étudiants et des agriculteurs, alors que le gouvernement les décrit comme des groupes extrémistes Oromo et des bandes armées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama a souligné hier que les efforts militaires des États-Unis et de leurs alliés contre le groupe État islamique s'étaient intensifiés, tout en reconnaissant que les progrès dans cette lutte devaient être plus rapides. Félix Yepassi Zembrou.
Le président américain a parlé hier depuis le Pentagone où il avait réuni son conseil de sécurité nationale. Nous les frappons plus fortement que jamais. L'aviation de la coalition, nos combattants bombardiers et drones ont augmenté le rythme de leurs frappes aériennes à près de 9000 aujourd'hui. Le mois dernier, en novembre, nous avons largué plus de bombes que jamais auparavant depuis le début de la campagne. Selon le président américain, le groupe État islamique n'a pas réussi une seule opération d'envergure en Irak ou en Syrie depuis 3 mois. Il a cependant reconnu que c'est un combat difficile, car les djihadistes utilisent des hommes, des femmes et des enfants comme boucliers. Le chef de l'exécutif américain a déclaré que les alliés comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont augmenté leur contribution. Il a annoncé que le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, se rendrait lundi au Proche-Orient pour travailler avec les partenaires de la coalition afin d'obtenir plus de contributions militaires.
L'Arabie saoudite a formé une coalition islamique antiterroriste de 34 pays, dont l'Égypte, le Pakistan et le Sénégal, rapporte l'AFP. Cette coalition, placée sous la conduite de l'Arabie saoudite, sera dotée d'un centre de commandement basé à Riyad.
Le président américain Barack Obama souhaite se rendre à Cuba avant la fin de son mandat en janvier 2017, mais à condition qu'il y ait d'ici là de réels progrès en termes de liberté individuelle dans le pays. Anastasie Toudièche.
Je souhaite vraiment aller à Cuba, a affirmé le président américain dans un entretien à Yahoo News, en souhaitant toutefois être en mesure de parler à tout le monde une fois sur place. Il a souligné qu'il va donc observer avec attention l'évolution de la situation au cours des mois à venir. La Maison-Blanche a déjà évoqué à plusieurs reprises un possible voyage de Barack Obama à Cuba, tout en restant évasive sur le calendrier. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est rendu en août à La Havane pour la réouverture de l'ambassade américaine. Les États-Unis et Cuba ont amorcé leur rapprochement le 17 décembre 2014. Les deux pays ont lancé une série de négociations sur l'immigration, les droits de l'homme, les contentieux financiers ou encore la lutte contre le trafic de drogue. Vendredi dernier, les deux pays ont annoncé le rétablissement de leur liaison postale directe qui avait été interrompue il y a plus d'un demi-siècle.
Le secrétaire d'État américain doit avoir des entretiens à Moscou avec son homologue Sergueï Lavrov et le président Vladimir Poutine sur une éventuelle transition en Syrie. Washington compte sur le Kremlin pour amener le président Bachar al-Assad à la table des négociations avec l'opposition syrienne afin de mettre un terme à la guerre qui a fait plus de 250 000 morts et des millions de personnes déplacées. Washington et Moscou doivent décider de l'organisation d'une nouvelle réunion du groupe international de soutien à la Syrie vendredi à New York. John Kerry a participé lundi à Paris à une réunion des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays reçue par Laurent Fabius. Il s'est entretenu avec ses homologues qataris et jordaniens. La Jordanie est chargée de dresser une liste des groupes considérés comme terroristes qui devraient être exclus du processus de négociation.
Un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur au Yémen ce mardi, quelques heures avant des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU à Genève entre les rebelles houthis soutenus par l'Iran et les forces force loyale au président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi, appuyé militairement par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. La coalition arabe a toutefois prévenu qu'elle se réservait le droit de riposter en cas de violation de la trêve par les rebelles. Selon un communiqué, M. Hadi a écrit au roi Salman d'Arabie Saoudite pour l'informer de la décision du gouvernement yéménite de proclamer un cessez-le-feu de 7 jours.
Enfin, 60 personnes ont été arrêtées dans une opération conjointe contre un réseau de pornographie infantile dans 8 pays d'Amérique latine, en Espagne et aux États-Unis. Au cours de cette opération, 3 mineurs âgés de 9, 14 et 15 ans, utilisés à des fins pornographiques au Mexique, ont été secourus. Les vidéos étaient publiées sur des sites internet, les médias sociaux et envoyées par email.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par John Lyndon.
Les 162 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce apparaissent profondément divisés avant leur conférence ministérielle qui se tient pour la première fois en Afrique de ce 15 jusqu'au 18 décembre à Nairobi. 2 ans après la conférence de Bali où les ministres avaient réussi à se mettre d'accord in extremis sur un accord douanier censé booster le commerce mondial, les ministres se retrouvent à nouveau avec le dossier de l'agence du cycle de Doha sur la table dont l'impasse depuis 14 ans. Le cycle de Doha a pour but de libéraliser le commerce mondial sur une base multilatérale avec des bénéfices particuliers pour les pays en développement, mais les négociations se sont enlisées depuis plusieurs années. En Afrique du Sud, le nouveau ministre des Finances veut rassurer les marchés après la chute du rand. Bravin Gordhan a tenté lundi de rassurer les marchés après la crise politique et financière provoquée par une valse de ministres à ce poste clé dans la première économie industrielle d'Afrique. Gordhan, appelé à la rescousse, le bon sens l'emporte, titrait lundi The Star, un des principaux quotidiens sud-africains, résumant le soulagement général dans un pays qui se débat déjà avec une croissance faible et un chômage dépassant les 25%. Dans le secteur minier, le Sénégal veut relancer le projet Falémé, selon le magazine Jeune Afrique, et malgré une conjoncture très défavorable pour les mines de fer, Dakar multiplie les initiatives pour relancer le projet de Falémé. Celui-ci avait été arrêté après que des contentieux judiciaires est opposé l'État sénégalais au sud-africain Kumba Resources et au franco-indien ArcelorMittal.
Merci beaucoup John pour cette page économie. À présent, les sports qui vous sont présentés ce matin par Eric Manirakiza. En Afrique, on connaît les postulants au titre de joueur et d'entraîneur africain de l'année.
La Confédération africaine CAF l'a annoncé. Yaya Touré quadruple lauréat en titre. Le Ghanéen André Ayew et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund sont les 3 prétendants dans la catégorie des joueurs qui évoluent en dehors du continent.
Et pour le prix du joueur évoluant en Afrique,
les 3 finalistes sont Bagdad Bounedjad, qui est algérien, il joue à l'Étoile du Sahel, Mbwana Ali Samanta, tanzanien de TP Mazembe, et Robert Kidiaba, ivoirien de TP Mazembe.
Et côté entraîneur, Eric.
L'entraîneur de l'année sera à choisir entre Baïba, Mali, Emmanuel Amunike, Nigeria, Fawzi Banzerti, Étoile sportive du Sahel, Hervé Renard, Côte d'Ivoire, et Patrice Carteron, TP Mazembe. Et c'est le 7 janvier 2016 qu'ils sont reconnus à Abuja, au Nigeria, après le vote.
Merci Eric. Les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat de basketball nord-américain, Miami-Atlanta 188, Dallas l'a emporté contre Phoenix 104-94, Denver-Houston 114-108, Memphis contre les Washington Wizards 112-95, San Antonio contre Utah Jazz 118-81. Et une défaite de la New Orleans contre Portland de 101 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burundi, le procès de 28 militaires et policiers s'est ouvert hier à Gitega. Ils sont accusés d'avoir participé au coup d'État manqué du 13 mai dernier. L'échec du putsch a été suivi par la reddition d'au moins trois des meneurs, dont le général Cyril Ndayirukire, ancien ministre de la Défense. Le chef des mutins, le général Godefroy Niambaré, est toujours en fuite. Idriss Fall a joint maître Onésime Kabayabaya, un des avocats de la Défense.
Tous les 28 prévenus, ils ont été écoutés. L'instruction n'a porté que sur le droit d'accès au dossier, sur les conditions de détention. Et c'est sur ces questions-là qu'ont porté les décisions qui ont été prises.
Vous avez discuté des conditions de détention, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que nos clients sont jusqu'à présent dans des conditions d'isolement, ils n'ont pas d'accès. Entre eux, d'abord, ils sont enfermés dans des conditions très mauvaises, conditions d'hygiène tout à fait en dessous des minima possibles. Ils ne peuvent pas recevoir de la visite de leur famille et autres proches. Et c'est tout ça que nous avons demandé que ce soit supprimé pour qu'ils puissent être gérés dans des conditions de détention propres à tous les détenus. De droit commun. Nous avons aussi présenté le droit de consulter leur dossier parce que jusqu'à présent, les détenus n'ont pas encore consulté leur dossier, leurs avocats non plus. Et nous avons donc demandé, ce que nous n'avons pas lu pour voir ce qu'il y a dedans, c'est pourquoi ils ont pris affaire en dérivé.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite alors?
Ils ont décidé de mettre tous les prévenus, de les soustraire à l'isolement. Autrement dit, maintenant, d'après ce qu'ils ont décidé, nos clients pourront rester dans les mêmes conditions de détention que les autres prévenus. Mais seulement, ils nous ont refusé le droit d'accès au dossier, ce qui n'est pas normal non plus. D'ailleurs, il y a 8 prévenus dont l'instruction du dossier vont commencer. Mais nous ne voyons pas pourquoi ils nous refusent l'accès au dossier, parce que cet endroit qui est inscrit dans la constitution du Burundi, cet endroit qui est inscrit dans le code de procédure pénale burundais, cet endroit qui est inscrit dans les conventions internationales auxquelles le Burundi a adhéré, nous ne demandons rien de particulier par rapport à la loi. C'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi les juges ont préféré soustraire nos clients au droit.
Et le procès peut durer combien de temps alors?
Ils en ont désigné 8, parmi lesquels se trouve le général Ndayirukire que j'assiste. Et ils ont décidé que l'instruction reprend. Mais nous avons demandé expressément qu'il nous soit notifié la décision de refus d'accès de nos clients au dossier qui est le leur. Parce que nous entendons interjeter appel contre cette décision arbitraire qui refuse à un prévenu de lire son dossier. Parce qu'on ne peut se défendre que par rapport à son dossier. On ne peut pas imaginer une personne qui est poursuivie et à qui on empêche de consulter le dossier sur base duquel il est poursuivi.
C'était maître Onésime Kabayabaya, avocat au Burundi. En Centrafrique, le référendum constitutionnel du 13 décembre a été perturbé à Kaga-Bandoro, dans la région du centre-est du pays, contrôlée par l'ex-coalition Seleka. En effet, les habitants de cette localité n'ont pas pu voter dimanche en raison des menaces des éléments de la branche armée de Noureddine Adam. Le vote n'a été possible que le lendemain, lundi. Voici les explications d'un habitant de Kaga-Bandoro, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Les gens n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas été aux endroits pour aller faire la vote.
Mais pour quelle raison?
Il y avait des affiches qui ont été affichées sous les manguiers un peu partout. Et ça disait que la personne qui part pour faire la vote, il rendra son âme. Donc c'est comme ça que les gens ont décidé d'aller faire la vote et c'est là qu'elle les a renvoyés.
D'après vous, qui a mis ces affiches sur les manguiers?
Les affiches qui ont été affichées sous les manguiers, ça a été affiché par les Seleka.
La branche de Bambari ou bien ex-Seleka qui relève de Noureddine Adam?
Oui, effectivement, ex-Seleka qui relève de Noureddine Adam.
Quelle est la situation ce lundi là à Kaga-Bandoro?
La situation présentement, il y a un petit changement. Aux environs de 13 heures, il y avait une personne là qui aurait promené au niveau de la suite en train de sensibiliser les déplacés qui se trouvent au site. Présentement, ils sont allés pour voter. Actuellement, la vote continue encore au niveau de Kaga-Bandoro.
Ce qui concerne le taux de participation, vous ne savez pas s'il y a grand monde qui est allé voter ce lundi?
Les gens sont venus massivement pour faire la vote. Ils ont commencé depuis 15 heures et présentement, ça continue encore. Donc, c'est pour dire que les gens sont venus vraiment massivement pour faire la vote.
C'était un habitant de Kagabandoro en Centrafrique sous couvert d'anonymat.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Dans son discours annuel devant le Parlement congolais, le président Joseph Kabila a déclaré lundi que les solutions aux problèmes de son pays ne viendront pas de l'extérieur, mais des Congolais eux-mêmes. Monsieur Kabila a également accusé l'opposition d'adopter une posture négativiste et de refuser le dialogue. Pour une réaction, Nanit Talani a joint à Bruxelles Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
De telles menaces frisent la volonté de M. Kabila de dynastiser la République démocratique du Congo et de tout simplement enterrer la constitution actuelle qui l'interdit d'aller au-delà de son dernier mandat qui touche à sa fin dans quelques 11 mois. En prononçant de telles choses, il est venu confirmer l'inquiétude de la coalition des Congolais pour la transition qui avait déjà alerté la communauté internationale afin que les efforts de l'ensemble des Congolais attachés à la démocratie et à leur constitution soient soutenus en mettant en place un processus de transition qui mettra fin au régime de M. Kabila et ramener la République démocratique du Congo dans la démocratie.
Est-ce là le rôle que peut jouer votre coalition dans la résolution de ce qui semble déjà être une crise dans le processus électoral en RDC?
Il n'existe aucune crise. Il y a depuis 2001, au mois de janvier exactement, date d'arrivée au pouvoir de M. Joseph Kabila, une série de crises artificiellement créées par M. Joseph Kabila lui-même pour empêcher la République démocratique du Congo d'entrer exactement dans le règne de démocratie. Et la coalition des Congolais pour la transition et toutes les autres forces politiques du pays que nous saluons d'avoir refusé d'aller à ce faux dialogue, eh bien, mettre fin à la crise, c'est d'abord détruire et liquider le régime de M. Kabila qui aujourd'hui vient de s'afficher comme étant un régime dictatorial, antidémocratique et anticonstitutionnel. La solution passe par la conjugaison des efforts pour détruire d'abord le régime de M. Kabila qui est en train d'aller petit à petit vers une dérive dynastique du pouvoir dans notre pays.
C'était Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Bénin, il y a quelques jours, contre toute attente, Yayi Boni portait son choix sur Lionel Zissou comme candidat unique de la coalition au pouvoir. Le Premier ministre est donc le seul candidat désigné pour porter aux élections présidentielles du 28 février l'héritage politique de l'actuel chef d'État béninois. Mais Lionel Zissou ne semble pas faire l'unanimité au sein de la mouvance, pendant que certains essayent de convaincre les militants à la base de la nécessité de ce choix, d'autres l'ont désapprouvé. Les précisions avec Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Le Premier ministre Lionel Zissou, choisi comme candidat unique des Fausses Kori pour un Bénin émergent, reste un géant tous coincé dans la gorge des partisans du chef de l'État. Mais plus encore, dans le rang des populations, on se dit fatigué de ces hommes venus de nulle part qui prennent le pouvoir et qui, par la suite, ne parviennent pas à bouger les choses pour avoir reçu une éducation autre que celle en face d'eux. En tout cas, c'est l'avis du citoyen dans la rue qui pense, à tort ou à raison, que ce choix a été imposé par la France.
Lionel Zissou ne me plaît pas, moi. On ne le connaît pas.
Si le choix ne tenait qu'à moi, je pense quand même que ce choix-là n'est pas un choix qui convient aux Bénois. Il faut quelqu'un qui connaît le pays, qui a vécu nos réalités, qui connaît bien ce qui se passe dans le pays. Je pense suffisamment que ça-là, ce n'est pas adéquat. On va toujours retomber dans les mêmes erreurs.
Lionel Zissou est pour moi une pilule qu'on impose au peuple béninois et qui est difficile à avaler.
Mais le débat quittera très tôt la rue pour s'incruster au sein de la famille politique de Thomas Boniaï. Trois des membres fondateurs et pas des moindres des Foscori.Bénin émergents feront une sortie médiatique qualifiant le choix opéré par leur leader de nul et de non avenu. Pour eux, choisir Lionel Zissou serait une injure portée à tous les alliés des premières heures des deux mandats de Yahi Boni.
Aucun des candidats à la candidature FCBE n'a d'ailleurs jusqu'alors élevé publiquement la moindre protestation pour dénoncer cette chose-là. Leur attitude est de nature à crédibiliser la thèse qui à tort estime qu'il n'y a pas de militant FCBE valable et capable de succéder au président Yahi Boni pour aller jusqu'à importer, puis d'imposer un halogène qui a le mérite de ne remplir aucun des critères définis par la pseudo-commission de candidature.
Nous sommes dans un état de droit. Les tribunaux seront saisis. La Cour constitutionnelle va connaître du dossier.
Mais si vous êtes à leur place, comment allez-vous réagir? À moins que vous ne soyez des vôtres, ben vous allez réagir en disant « Attention, le principe des textes n'est pas respecté. »
Le consensus a du mal à se faire autour du dauphin de Yahi Boni. Lionel Zissou est criblé de tous les reproches. Par exemple, certains Béninois ne comprennent pas comment un homme qui désire diriger le Bénin choisit pour ses sorties médiatiques rien que des chaînes étrangères. Les jours à venir seront déterminants. Peut-être que d'autres ténors des Foscori pour un Bénin émergent sortiront de leur silence pour approuver ou désapprouver cette candidature qui fait couler actuellement au Bénin assez d'encre et de salive. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement a demandé aux agriculteurs de ne rien planter pour la prochaine saison, jusqu'à ce qu'ils puissent s'assurer qu'il y aura assez de pluie. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka, réalisé à Bamenda dans le nord-ouest du pays, interprété par Idrissa Seydoudia.
Ndoukong Kennedy, 42 ans, élève des poulets à Santa dans la banlieue de Babenda. Il cultivait auparavant de l'arachide, mais a connu deux mauvaises récoltes consécutives dues à une pluviométrie insuffisante. Les pluies commencent d'habitude au mois de mars.
Finally, the rain came about end of April, and the sun was hot.
Les pluies ne sont venues qu'à la fin d'avril et le soleil était tellement chaud qu'il a, pour ainsi dire, fini par frire l'arachide sur place. Nous avions l'habitude de préparer nos champs pendant la saison sèche en sachant que les pluies commenceraient le 15 mars. Mais maintenant, on ne sait plus. Henri Mouma Awa, le principal responsable gouvernemental chargé de l'environnement à Bamenda, a demandé aux agriculteurs de ne rien planter en 2016 jusqu'à ce qu'il leur donne le feu vert.
There's confusion in the rainfall pattern. We call it a distorted rainfall pattern.
Il y a confusion sur la pluviométrie. Avant, nous savions que nous avions une saison sèche et une saison des pluies précises. Maintenant, rien n'est plus très certain. Le rendement a baissé pour certaines cultures à cause de cette situation. Les températures ont aussi augmenté à cause du déboisement abusif et il y a beaucoup de CO2, de gaz carbonique, dans l'atmosphère. Selon les Nations Unies, la température moyenne par an a augmenté de 0,7 degrés Celsius depuis les années 1960. Pendant la même période, les pluies ont baissé de 2,2% par décennie. L'écologiste Nestor Bouma blâme l'homme pour cette dégradation.
More than 80 to 90% of the population uses firewood.
Plus de 80 à 90% de la population utilise du bois pour satisfaire ses besoins énergétiques. Cela pousse la population locale à abattre des arbres et conduit à un usage abusif du bois dans les foyers. Dépendant de la région, on commence à planter de la mi-mars à juin au Cameroun. Il est difficile de dire combien d'agriculteurs sont affectés par l'appel des autorités d'attendre leur feu vert, mais 70% des 22 millions de Camerounais dépendent de ce secteur primaire, dont beaucoup dans l'agriculture de subsistance. Pour le moment, le Cameroun ne signale pas de pénuries alimentaires aiguës, mais il y avait un déficit céréalier de 200 000 tonnes l'année dernière. Les prix des haricots, de la pomme de terre et du maïs ont augmenté de 25% ces dernières années, selon le gouvernement, à cause d'une stagnation de la production dans certaines régions.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson et avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon mardi à toutes et à tous.